Nous allons lire deux passages de la parole de Dieu. Le premier se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 4. Premier livre des Rois, au chapitre 3, à partir du verset 4. Un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors un haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut en songe et lui dit : Demande ce que tu désires que je t'accorde. Salomon répondit : Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi, ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi. Un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit : Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute la vie, toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Je vous propose un deuxième texte que nous trouvons dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et atteste dans le Seigneur. Ne vivez plus comme vivent les païens, que leur intelligence conduit au néant. Leur pensée est la proie des ténèbres, et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'entraîne chez eux l'endurcissement de leur cœur. Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche, au point de s'adonner à une impureté effrénée. Pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien de lui que vous avez entendu parler, si c'est lui qui vous a été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet de convoitises trompeuses. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Vous voilà donc débarrassé du mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Êtes-vous en colère? Ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. Ne donnez aucune prise au diable. Celui qui volait, qu'il cesse de voler, qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Aucune parole pernicieuse ne doit sortir de vos lèvres, mais s'il est besoin, quelques paroles bonnes, capables d'édifier et d'apporter une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injures, tout cela doit disparaître de chez vous comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez du cœur. Pardonnez-vous mutuellement comme Christ vous a pardonné. Imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants qu'il aime. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et victime comme un parfum d'agréable odeur. Ce matin, je voudrais que nous parlions ensemble de la sagesse, de l'intelligence, vous l'avez compris, d'après les deux lectures que nous venons de faire. Un chrétien est d'abord un être qui se tient dans la communion de Dieu et dont la réflexion et la pensée renouvelées sont aux origines de son comportement et de son action. Timothée a évoqué quelques aspects de notre temps, de ce qui nous est contemporain. Et c'est vrai que nous sommes dans une société qui semble réfléchir de moins en moins, rabaissant ainsi ce qui fait la spécificité et la grandeur de l'être humain. Et nous, nous avons le privilège, par la parole de Dieu, le Saint-Esprit et l'Église, d'apprendre à penser et à penser juste. Tout peser, tout évaluer aux critères bibliques du vrai, du juste et du bien. Quelques mots pour rappeler l'origine de la sagesse et ce qu'elle est devenue. L'intelligence, la pensée ont été données par Dieu dès les origines, dès la création, avec le souffle créateur. Et dès que Dieu a créé l'être humain, il lui a donné des éléments pour qu'il vive et il l'a appelé à exercer sa capacité de discernement. Il a appelé à reconnaître la femme qu'il avait mise auprès de lui. Il l'a appelé à reconnaître aussi les autres êtres du vivant, les animaux, qu'il a été appelé à nommer. L'intelligence, le discernement caractéristique de l'être humain. Dans l'Ancien Testament, deux termes pour dire l'intelligence et la pensée. D'un côté, la connaissance, et de l'autre, la sagesse. Vous comprenez bien les liens entre ces deux termes. Les deux ont leur origine en Dieu. Les deux sont donnés par Dieu à la créature humaine. Et nous avons lu cet épisode riche de sens du début du règne du roi Salomon. Il demande à Dieu de lui donner la sagesse. Le terme exact, c'est un cœur écoutant. Salomon demande à Dieu un cœur écoutant. Il a conscience de ses limitations. Il est jeune, il a une vingtaine d'années. Il n'a aucune expérience pour le gouvernement. Accorde donc à ton serviteur, dit-il à Dieu, un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner le bien du mal. Cette demande plaît à Dieu, qui lui accorde, en plus de la sagesse, d'autres richesses qu'il n'a pas demandées. Nous trouvons bien des textes qui révèlent ce qu'est cette sagesse et qui disent comment ou l'acquérir ou la maintenir. Deutéronome 4, nous l'avons lu il n'y a pas longtemps. Obéissez aux lois de Dieu et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et s'écrieront. Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. Job. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, l'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. C'est Dieu, dit Jérémie, qui donne à l'homme un cœur capable de discerner le bien du mal. C'est l'œuvre du Dieu de vérité. C'est l'œuvre de Jésus-Christ, celui qui a dit « Je suis la vérité ». C'est l'œuvre de l'Esprit de vérité. L'intelligence donnée par Dieu à l'homme, capacité de l'écouter, de le comprendre, d'écouter et de comprendre la parole de Dieu, et la possibilité aussi de s'y référer avec le don de la loi. Ce que Dieu donne à l'être humain fonctionne bien dans la mesure où l'humain reste relié, attaché à Dieu. Cette sagesse se pervertit par la coupure de la relation entre l'homme et Dieu. L'intelligence, la pensée, est la première touchée par le péché. Nous savons la séduction qui est intervenue dès le jardin d'Éden, la parole mise en doute par le serpent. Dieu a-t-il réellement dit « Vous connaîtrez et vous serez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu choisissant vous-même entre le bien et le mal ». La femme vit que le fruit était bon à manger, agréable à voir et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit et en donna à Adam. Leurs yeux s'ouvrirent. Et résultat, ils virent qu'ils étaient nus. L'intelligence première de l'homme était reliée à Dieu par la foi. L'intelligence s'est égarée par le mensonge du séducteur qui a remplacé la vérité. Le mensonge, c'est le chef-d'œuvre de Satan. Vous connaissez ce texte du début de la lettre de Paul aux Romains. Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. Ils sont donc inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont rendu ni la gloire ni l'action de grâce qui reviennent à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leur vain raisonnement et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Bien des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament nous parlent de cette dégradation de l'intelligence humaine. Dans l'Ancien Testament, dès que Moïse descend de la montagne après avoir reçu la révélation de Dieu et les 10 paroles du Décalogue, le peuple qui trouve que Moïse met trop longtemps à redescendre de la montagne, s'est tourné vers Aaron pour qu'il lui fasse une idole. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est perverti. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un tourillon de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Dans le psaume 95, Dieu dit, « C'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. » Et dans le prophète Ésaïe, nous trouvons cette parole, « Le bœuf connaît son maître et l'âne sa mangeoire. Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien. » Même les choses les plus naturelles et les plus instinctives deviennent perverties et hors de portée de l'être humain. À partir de là s'enchaînent des perversions qui touchent tous les aspects de la vie, des pensées aux sentiments, aux paroles et aux comportements. Et là encore, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, nous avons des listes, si l'on peut dire, de dégradation de la pensée et du comportement des êtres humains. J'en cite une en particulier dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Nous lisons ceci. En plus, il y a une mention précise dès le départ de cette parole. « Sache bien ceci, dans les derniers jours, surviendront des temps difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, âpres au gain, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, sans discipline, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt qu'amis de Dieu. » Une des citations parmi un grand nombre. Je voudrais, pendant quelques instants, revenir un peu sur notre aujourd'hui, sur notre présent. Nous avons entendu, il y a quelques dimanches, notre frère Gérard Boss nous parler de la résurrection et du corps qui passe de l'incorruptibilité, de la corruptibilité à l'incorruptibilité. Et pour illustrer son propos, il nous a parlé du siècle des Lumières, je pense que vous vous en souvenez. Le siècle des Lumières, c'est le 18e siècle, on se situe entre 1715 à la mort de Louis XIV, à 1789, la Révolution française. Ce siècle des Lumières, qui avait mis au premier plan la connaissance par la raison et la science, et cette connaissance par la raison et la science doit faire sortir l'humanité de l'obscurantisme. Depuis trois siècles, on a vu un certain nombre d'évolutions, et un certain nombre de résultats. On a vu des progrès scientifiques, oui, bien sûr, techniques, oui, des progrès moraux, beaucoup de questions, au moins, sur ce sujet. En ce qui me concerne, pour notre réflexion de ce matin, je voudrais y ajouter une note particulière qui nous semble dominante pour notre aujourd'hui. Pour notre aujourd'hui, entre autres choses, me semble-t-il, on cultive à profusion l'art de se plaindre. Je ne sais pas qui a dit, la France compte 60 millions de sujets, j'ai adapté le chiffre, parce que ça fait longtemps, 60 millions de sujets sans compter les sujets de mécontentement. Si quelqu'un a la référence, je suis preneur. Qui a dit cela, je ne sais pas. Mais en tout cas, insatisfaction, récrimination, contestation, revendication semblent les sentiments les plus répandus et les plus exprimés. Sans nier que certains peuvent se comprendre, je voudrais mettre cette tendance à l'épreuve de quelques textes de l'Écriture. Que dit l'Écriture sur se plaindre ? Ésaïe 59, 4. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide selon la vérité. On assoit son assurance sur du vide. On parle creux, on conçoit le dommage et l'on enfante le méfait. Lamentation 3, 39. Pourquoi l'être humain se plaindrait-il alors qu'il reste en vie ? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Jacques 5,9. Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères, si vous ne voulez pas être jugés. Et Jude, toute la lettre de Jude est un fort réquisitoire, une description assez terrible des humains. Il parle de certains, bien sûr, pas tous. Ces hommes-là, dit-il, sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils ne considèrent les autres qu'en fonction de leurs intérêts. À méditer. Mais je voudrais revenir sur le deuxième texte que nous avons lu et qui fera évidemment l'essentiel de notre réflexion maintenant. Nous avons lu dans la lettre aux Éphésiens ce texte important sur autrefois et maintenant. Nous ne devons plus marcher comme nous marchions autrefois. Vous ne devez plus marcher comme les païens, que leur intelligence conduit au néant. Leur pensée est la proie des ténèbres et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'entraîne chez eux l'endurcissement de leur cœur. Et après avoir décrit ce dont il faut s'éloigner, l'apôtre Paul décrit « Vous, maintenant, vous qui avez connu Dieu, vous qui avez connu le Christ, vous qui avez entendu sa parole, vous qui avez vu ce qu'il a fait pour les êtres humains. Et maintenant, à vous de saisir cette vie nouvelle qui vous a été donnée par la foi en Jésus-Christ et qui fait de vous des êtres nouveaux, des êtres complètement différents dans leur pensée, dans leur comportement. Que votre intelligence soit transformée. Transformation de l'intelligence. L'homme nouveau a une intelligence transformée, renouvelée. C'est aussi, bien sûr, ce que nous disent d'autres textes que nous connaissons très bien, en particulier le début de Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, dit encore l'apôtre Paul, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Et là, nous avons cette richesse, cette description importante qui fait du chrétien un être à la pensée complètement renouvelé. La régénération de l'intelligence, penser juste, discerner le bien, discerner la volonté de Dieu, aligner notre pensée sur celle de Dieu. Voilà l'œuvre que Dieu a commencée en nous par son Esprit, par sa parole. Voilà l'œuvre à laquelle nous sommes appelés à participer par la foi. Nous avons la pensée du Seigneur, nous avons sa parole et nous sommes à son écoute, à son école. Ce texte d'Éphésiens 4 nous rappelle ces choses avec force. Et en fait, il correspond à l'enseignement, bien sûr, de l'apôtre Paul. Il correspond aussi à son vœu et à sa prière que je vous rappelle. C'est juste un peu avant le texte que nous avons lu. « Je fléchis les genoux devant le Père, dit l'apôtre, de qui toute famille tient son nom au ciel et sur la terre, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vous, dans vos cœurs, par la foi. Enracinés et fondés dans l'amour, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. » Des termes qui nous dépassent de toutes parts, que nous avons du mal à saisir. Mais ce que nous avons saisi, c'est que l'œuvre de Dieu en nous est une œuvre extraordinaire qui se continue, qui se poursuit, qui s'amplifie, et que nous sommes, et dans laquelle nous sommes invités par la foi à entrer pleinement. Enracinés et fondés dans l'amour, vous serez ainsi, vous aurez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, avec cette dernière affirmation, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Et vous savez ce que l'apôtre dit après ? Je pense qu'il est saisi comme nous par l'immensité de son propos. À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà la parole de Dieu que je voulais partager avec vous ce matin. Quelle richesse, quelle perspective immense, cet homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Nous allons dans quelques instants chanter « Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin ». Toute connaissance vient de lui, toute connaissance revient à lui. Nous sommes émerveillés. Une dernière évocation de texte, vous pourrez vous y référer, c'est un des apôtres qui a parlé de la façon la plus concrète de tous les aspects de la vie, c'est l'apôtre Jacques. Et dans l'apôtre Jacques, nous trouvons cette parole: si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et il dit, un peu plus loin dans son écrit, que cette sagesse qui vient de Dieu est pure, elle est parfaite, elle est pacifique, elle est pleine de bons fruits. Et vous avez vu que ça rejoint complètement le texte de la fin de ce que dit Paul aux Éphésiens, lorsqu'il leur dit de se revêtir de bonté, de douceur, de compréhension et d'appui réciproque. Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement comme Christ vous a pardonné. Imitez Dieu et revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que le Seigneur exauce en notre faveur la prière de l'apôtre Paul. Amen.